BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Stéphane Pallez. Elle est la présidente de la Française des Jeux et on vient de savoir, d'apprendre à l'instant qu'elle avait réussi son OPA sur le suédois Kindred à hauteur de 90,66%. Bonsoir Stéphane Pallez.
Bonsoir Edwige Chevriot.
Merci d'être là, vous étiez venu, je crois que c'était en janvier, même si l'OPA n'a débuté qu'en février, nous annonçait que vous lanciez cette grande opération à l'aune de la Française des Jeux. Surtout, c'est quelque chose de très structurant. On verra aussi votre titre. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a, vous avez chat qui rit, chat qui pleure, parce que il y a, votre titre en bourse a été assez chahuté, parce que paraît-il que Bercy, ou du moins dans le cadre du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pourrait vous taxer. Vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Mais d'abord, revenons sur cette opération 90,66%. C'est bien. Est-ce que vous espériez mieux ?
Non, mais c'est formidable, puisque en fait, on a effectivement, on a vu plus de 90% des titres venir à notre offre, qui était le seuil qu'on avait fixé. Et en plus, il se trouve qu'on avait par ailleurs acheté 1,66% directement. Donc, on est largement au-dessus du seuil qu'on avait fixé. Pour que cette OPA soit un succès. Et donc ce soir, ce qu'on a annoncé, c'est qu'effectivement, cette OPA était un succès exactement au niveau où on l'avait anticipé. Et c'est un niveau qu'il faut quand même aller chercher sur le marché, au prix qu'on avait proposé dès le départ, donc en février, donc 130 couronnes par action. Donc c'est un succès, ça nous permet de donc la clore ce soir, c'est-à-dire on va payer les presque 92% de titres qu'on a effectivement aujourd'hui entre nos mains, et on va laisser 15 jours à ceux qui avaient oublié d'apporter leurs titres pour venir. Et de toute façon, derrière, on a ce qu'on appelle un squeeze out, c'est-à-dire que en fait on va délister l'entreprise, et les actionnaires qui n'auront pas apporté leur titre seront en quelque sorte forcés d'apporter leur titre à ce prix.
Même donc, en si fait, vous n'êtes qu'à 92, même si vous n'êtes qu'à 92,
ça s'appelle un squeeze out. Oui. Donc en fait, c'est le seuil qu'on s'était fixé. Dès le départ, on a annoncé au-dessus de 90%. L'opération est réussie, on l'a fait, et il y a des listings et squeeze out derrière. Donc tout le monde a été parfaitement informé, et cette opération se déroule exactement comme prévu, et même plus vite que prévu, puisque au départ, on avait fixé une durée maximum de 9 mois, qui nous a mis au 19 novembre, et nous sommes aujourd'hui, si je ne m'abuse,
le 3 octobre.
Voilà,
pourquoi ne pas continuer
jusqu'à bonne date.
Pourquoi ne pas continuer jusqu'au 19 novembre en disant, mais comme ça, peut-être qu'on aura...
Parce qu'on a le contrôle. Non, mais on a le contrôle. Oui, donc, on prend le contrôle des 92%, donc on les a dans nos mains, et après, on va aller effectivement, de toute façon, payer le reste des titres, soit qu'ils viennent dans la période de 15 jours qu'on leur donne pour venir, si je puis dire, volontairement, soit via le squeeze-out. Donc, de toute façon, cette opération, elle est faite. Voilà.
D'accord.
Et c'est un succès.
Et c'est un succès aux conditions... Oui,
absolument.
Vous n'avez pas de problème de financement, parce que quand on regarde l'évolution de votre cours de bourse que j'ai devant moi... Alors aujourd'hui, c'était un coup de tabac. Vous allez nous expliquer...
Qui n'a rien à voir avec ça.
Qui n'a rien à voir avec ça, bien sûr. Mais en même temps, est-ce que ça ne limite pas un peu cette baisse du cours de la FDJ? Pas du tout.
Non, du tout.
En termes de financement?
Non, parce que ce qui est important...
L'opération est bouclée.
L'opération, en fait, tout ça, ça a aussi été bien prévu dès le départ, puisqu'en fait, nous avons aujourd'hui un prêt-relais qui nous a été proposé
d'un
par
montant.
Des grandes banques,
oui.
Donc d'un montant de plus de 2 milliards, et nous avons par ailleurs de la trésorerie, donc nous sommes en état de mobiliser notre prêt-relais que nous allons ensuite refinancer par une opération obligataire que nous allons monter dans les prochaines semaines. Donc tout ça est parfaitement préparé. Et encore une fois, la baisse du cours de bourse, ça n'est jamais une bonne nouvelle, et on va y revenir, mais ça n'affecte absolument pas notre capacité à financer cette opération qui, depuis le début, a été vue par les marchés et les investisseurs comme une opération tout à fait positive avec une capacité de l'entreprise à la financer dans de très bonnes conditions, compte du fait que nous sommes très peu endettés aujourd'hui.
Alors,
et que nous générons beaucoup de cash.
On voilà. verra pourquoi vous avez été chahuté en bourse, et notamment parce que, je le disais, paraît-il, une volonté de Bercy de taxer les jeux d'argent. On verra ça. Restons quand même sur cette opération, parce que cette opération, elle est importante pour la Française des Jeux, parce qu'elle vous donne une dimension vraiment européenne. Vous allez devenir deuxième opérateur européen sur les jeux en ligne notamment. Et là, il y a deux facettes structurantes dans cette opération. On va rappeler Kindred, c'est surtout Unibet. Hein. C'est comme ça qu'on connaît.
Alors, c'est la marque la plus connue de Kindred. Kindred, effectivement, c'est le nom de l'entreprise, du groupe coté sur les marchés, mais qui n'est pas une marque grand public. La marque grand public la plus connue en matière de paris sportifs, c'est Unibet. C'est la marque de la filiale de Kindred en France, donc qui va être consolidée avec nos propres activités de paris sportifs en concurrence. Donc c'est une opération effectivement qui va créer en fait un nouveau groupe. Qui va être un groupe dans lequel nous aurons toujours la majorité de nos activités qui seront des activités de loterie exercées donc en monopole, en France pour l'essentiel, aussi en Irlande, puisque vous vous rappelez qu'on a donc racheté l'opérateur de loterie irlandais. Donc,
en deux mots, la FDJ, c'est quoi ? Allez, les trois produits phares. Non mais bon, on vous connaît. Bon, alors, on va parler forcément du patrimoine, même si c'est ça qui nous intéresse, la loterie du patrimoine. Mais... voilà.
Les produits phares
de la FDJ et ensuite de la loterie.
Les produits phares de la loterie, donc c'est nos grands jeux de tirage Euromillions loto, nos grands jeux de grattage, et il y en a énormément, notamment Cash qui est par exemple qui est un des jeux les plus connus, et au sein desquels effectivement on a aussi des jeux qui financent des causes d'intérêt général, qui sont pas les plus importants en termes de chiffre d'affaires, mais qui sont très importants
en termes d'image
et en termes de lien avec nos causes d'intérêt général, le territoire et l'ensemble de ce que nous redistribuons sur le territoire français. Donc tout ça va rester. Donc et à côté de ça, on est en train, avec Kindred, de consolider, mais en passant à une taille complètement différente, une activité de paris en ligne en concurrence que nous avions déjà en France avec Paris en sport en ligne et qu'on avait augmenté avec la création d'une activité de poker en ligne et l'achat de The Turf. Donc on avait déjà une base en France. Voilà. Et là, clairement, on passe à une taille totalement différente puisqu'on va se retrouver avec en gros un tiers de nos activités du groupe, du nouveau groupe, qui seront sur ces activités de paris en ligne en concurrence et qui seront aussi donc très, très importantes sur le plan européen puisqu'on sera présent en dehors de France sur sur 7 des plus grands marchés européens sur lesquels on a des positions très importantes. Donc on change complètement d'échelle et en termes d'activités de paris en ligne en concurrence et en termes aussi de présence sur l'ensemble des marchés européens. Et donc on vient effectivement...
Oui, parce que Kindred est présent aux Pays-Bas, Royaume-Uni,
Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Suède, Finlande, Belgique, Pologne, voilà. Donc c'est vraiment un opérateur qui d'un coup nous fait devenir un opérateur européen.
Cette opération, on voit bien que Kindred donc était encore un groupe suédois. Vous pourriez la répéter avec le même type d'opérateur mais plutôt tourné vers le sud, en fait, pour devenir vraiment un grand groupe européen.
Mais
non, mais je sais pas, ça fait partie de votre stratégie.
Non, mais il y a pas de réponse de principe à cela. Notre stratégie, ça consiste à effectivement devenir un champion européen sur nos deux activités qui sont d'un côté la loterie
et
de l'autre côté les paris en ligne en concurrence. Voilà. Donc il se trouve que Kindred
des acquisitions.
Nous pouvons faire d'autres acquisitions, sachant que cette opération donc nous conduit, encore une fois, comme on l'a dit au début, à nous endetter d'une manière qui est tout à fait raisonnable.
C'est 2 milliards
dans de bonnes conditions. On va emprunter de l'ordre de 2 milliards. Ouais. avec un rating investment grade dans nos plans, et donc qui va nous donner un bilan qui va être un peu plus leveragé qu'aujourd'hui, mais dans des conditions qui restent extrêmement prudentes et qui est vu favorablement par nos investisseurs.
Et l'émission obligataire dont vous parliez tout à l'heure, elle serait de ce montant-là, oui.
C'est 2 milliards.
Oui, d'accord. Okay.
2 milliards à peu près, c'est l'ordre de grandeur qu'on va qu'on annoncera. Et donc après, on va, grâce à notre capacité à générer de l'EBITDA et des cash flows, on va gentiment se désendetter, ce qui nous reconstituera une capacité de faire d'autres opérations.
Oui.
Mais là, c'est quand même une opération qui,
bien sûr,
il faut le temps de la digérer.
Oui. Non, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous couvrez une partie de l'Europe, donc logiquement, on se dit, vu l'extérieur, bah tiens, quand est-ce qu'elle va couvrir le reste de l'Europe?
Voilà. Il faut trouver okay, les bonnes cibles au bon prix. Donc, il n'y a pas de magie dans ce domaine.
Il y a juste la Commission européenne, vous êtes dans son œil, ou plutôt dans son champ de tir, dans sa ligne de tir depuis 2021, sur la question du monopole. Beaucoup s'inquiètent en disant que vous avez déjà payé une soulte, que cette soulte, ça pourrait aller jusqu'à 1 milliard d'euros.
Non.
Comment est-ce que vous voyez les choses et quand est-ce qu'on aura enfin la décision définitive?
Alors, si ça ne tenait qu'à moi, on l'aurait déjà. Mais en fait, en réalité, c'est un dossier sur lequel la Commission européenne donc, a ouvert une enquête contre l'État français pour aide d'État, qui effectivement, je suis d'accord avec vous, a duré beaucoup de temps. Nous pensons que nous touchons quand même la fin de ce processus, puisque nous avons compris que la Commission sortante, qui est toujours en activité, voudrait régler ce dossier avant de laisser la main à la nouvelle commission.
Oui, donc c'est éminent.
Qui, comme vous le savez, va prendre ses fonctions plutôt novembre. Donc, dans le courant du mois d'octobre, nous espérons effectivement avoir de bonnes nouvelles sur ce sujet.
Pour l'instant, vous avez payé quoi
368
millions. Voilà. Vous espérez évidemment en rester là. Vous pensez qu'il y aura quand même un petit surplus?
Il y aura peut-être un petit surplus, mais comme nous l'avons dit, nous pensons que il devrait, comme nous avons bien travaillé sur les argumentaires juridiques et que nous pensons que nous avons bien démontré que la manière dont cela a été appréhendé par l'État français est juridiquement tout à fait conforme à ce que a été expliqué dans la privatisation. Après, il peut y avoir, j'allais dire, un ajustement de calcul, mais qui ne peut pas, à notre sens, dépasser effectivement une fourchette de l'ordre de 300 et quelques millions d'euros. Donc nous pensons que...
Comme on y est déjà, donc vous estimez que vous avez 300 millions en plus.
C'est parce qu'il y a une... Les chiffres qui ont été évoqués globalement au moment où ça a été fixé, en fait, allaient jusqu'à de l'ordre de 700.
Oui.
Et donc, nous pensons que s'il y a quelque chose en plus, ça ne peut que se situer dans cette fourchette globale-là. Et donc, nous sommes plutôt dans des centaines de millions d'euros, petites centaines de millions d'euros,
oui,
si ça existe.
Oui.
Voilà, que nous avons parfaitement pris en compte, et donc pas du tout dans le milliard.
D'accord.
Voilà.
Ok. Voilà, comme ça. En dessous de 700, on voit autour de 700.
Non. De 300, parce qu'on a déjà payé 368.
Oui.
Et en fait, donc c'est entre 368 et 700, donc 300 millions, 368 maximum, en fait. On est dans, c'est ça l'ordre de grandeur du supplément possible. Donc on est dans cette fourchette-là. Et
d'accord,
pas de 700, de 368.
Le monopole, ben au moins, la partie monopole, avec cette opération, elle est plus qu'à 70% à peu près, ça sera
oui,
ça,
c'est ça. Oui, oui.
Donc c'est un argument de plus pour dire que grosso modo, il y a moins de monopole. Enfin, 70%, ça reste quand même...
Non, ça n'a rien à voir.
Alors,
rien à voir.
Maintenant... je le disais tout à l'heure, vous avez été très chahuté en bourse aujourd'hui, vous avez perdu 6%, enfin du moins votre titre, parce que il y a des informations de nos confrères Les Échos, comme quoi les jeux d'argent, et donc évidemment la FDJ, sont dans le viseur, tout le monde cherche à faire des économies, on a un budget 2025 qu'ils n'arrivent pas à bloquer parce qu'on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, peut-être que vous avez une explication, vous connaissez bien Bercy, et puis en plus... Dans le cadre du PLFSS qui est voté juste après, le projet de loi de la finance de sécurité sociale, il y aura une taxation sur les jeux d'argent et sur vous à deux niveaux. CRDS, CSG. Bon, votre taxation, c'est très compliqué, on ne va pas forcément entendre
en
détail. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous?
Alors, moi, ce que je dis, déjà, c'est que la première chose, c'est que la FDJ, c'est un contributeur majeur en termes de fiscalité sur les jeux au budget de l'État. Donc, nous avons versé l'année dernière 4,3 milliards d'euros. Voilà. Donc nous sommes un contributeur très important. Donc c'est pas comme si on était on était sous fiscalisé. La France est un pays d'ailleurs, tout le monde le sait, dans lequel le niveau de fiscalité sur les jeux d'argent est élevé.
Ouais. Voilà.
Donc ça, je pars de là. Ça c'est la première chose. Ouais. Deuxièmement, moi j'ai été très simplement, puisqu'il s'agit effectivement, ce que vous évoquez concernerait potentiellement le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Donc moi j'ai été vérifiée à la source et aujourd'hui il n'y a pas de mesure de ce type dans le PLFSS, mais qui n'est pas encore évidemment adopté. Mais mes informations sont que ça n'a pas, il n'y a pas de base, il n'y a pas de décision du gouvernement de mettre ce type de taxation, qui par ailleurs, et là ça nous amènerait à rentrer dans les détails,
quand même un peu,
qui de toute façon est un système extraordinairement peu efficace pour le gouvernement lui-même pour ramener des recettes supplémentaires. Mais je ne veux pas me livrer à l'explication sur ce sujet. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Il n'y a même pas une piste, des pistes. On vous dit, ça n'existe pas.
Qu'il y ait des gens qui, dans des bureaux, cherchent des recettes complémentaires, c'est possible.
Oui, non, mais vous, pas la même je ne sais chose pas si vous avez le ministre ou pas, je ne sais pas, mais...
Voilà, ben moi,
j'ai
parlé...
Et il vous a dit non.
Moi, j'ai vérifié dans l'appareil d'État ce qu'il en était, et aujourd'hui, ça n'est pas la position du gouvernement que de mettre ce type de mesures dans le PLFSS.
D'accord, ça c'est pour le PLFSS. Mais, on vient d'en parler, la Française des Jeux, elle fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous allez bénéficier de cette surtaxe ou pas ?
Attendez, la Française des Jeux, elle fait aujourd'hui 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Et après, effectivement, il y a la question d'une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, qui ne porte pas sur le chiffre d'affaires, mais qui porte
sur les bénéfices.
Bien
sûr, mais c'est. Si, pardonnez-moi.
Oui.
C'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je citais ce chiffre-là.
Non, bien sûr. Oui. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas de détails sur ce sujet, pardon.
Oui, il y en a un petit peu partout, là, vous avez vu.
Mais je n'ai pas d'informations privilégiées sur ce sujet. Mais là, c'est
le ministre de l'économie et des finances qui a présenté ça ce matin. On n'a rien compris, mais
c'est une mesure générale qui porterait sur les grandes entreprises. Si nous faisons partie des grandes entreprises, nous serions assujettis à cette mesure. Mais là-dessus, je n'ai rien à dire de plus aujourd'hui.
Bah si, vous pourriez dire comme beaucoup en disant, mais attendez, on a déjà un taux de fiscalité dément en France.
Je ne le souhaite pas. J'attends de voir ce qui est proposé. Je ne le souhaite pas. Après, je suis parfaitement informée du fait que le gouvernement cherche une contribution exceptionnelle des grandes entreprises pour améliorer la situation des finances publiques.
Ça, c'est clair. Ça, je peux vous confirmer sans être ministre.
J'attends de voir.
Ouais. Voilà. Stéphane Pallas, juste en conclusion, juste le fait d'imaginer cette taxation, notamment sur les jeux d'argent, en fait, l'idée derrière, ce serait de freiner, enfin, de mettre un peu un terme à cette folie des jeux d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez sur la raison?
Alors, je pense que tous ces argumentaires sont totalement n'ont aucun fondement, puisque de toute façon, enfin, ce que nous voyons autour de nous, c'est que le niveau de taxation n'a rien à voir avec les sujets d'addiction.
D'accord.
Voilà. Donc ça ne marche pas. Par ailleurs, la France reste un pays en matière de jeux qui est un pays régulé de manière stricte. Et je pense que c'est bien, dans lequel le jeu excessif reste limité. Donc je pense qu'on n'est pas du tout sur le bon sujet.
Cherchez ailleurs, vous l'avez compris. Merci beaucoup Stéphane Pallas, qui a réussi à hauteur de 90,66% son OPA. Merci.